L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce contexte que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Benjamin Tagawa, qui interviendra pour une conférence « Mutualité, santé et pouvoir d'agir » à Aix-Marseille Université. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure ?
Oui, bonjour. Je m'appelle Benjamin Tagawa. Du coup, je suis gestionnaire au sein du centre de santé, le Château en Santé. Nous sommes un centre de santé communautaire composé de 19 salariés. C'est une des spécificités de notre centre, c'est que nous avons différents professionnels de santé et que nous sommes tous salariés. Les médecins n'exercent donc pas en la médecine libérale, ce sont des salariés du centre. Parmi les autres professionnels, nous avons des médiateurs de santé, des travailleuses sociales, une conseillère conjugale et familiale, une infirmière et un infirmier diplômé d'État, deux orthophonistes, 5 médecins donc, et 2 gestionnaires. Le Château en Santé est un centre de santé. La forme juridique, c'est une association et nous travaillons en autogestion. Il n'y a pas de direction. Les gestionnaires, on appellerait ça des fonctions support. On n'est pas là pour prendre des décisions. Les décisions sont prises en collective et travaille avec des écarts de salaire réduits, ce qui fait partie de notre modèle. Pour les usagers du centre, on travaille sur un territoire spécifique qui est celui de Caliste, derrière l'hôpital Nord, dans les quartiers nord de Marseille. Et du coup, on accueille des habitants du quartier Notre-Dame-Limite qui regroupe les quartiers de Caliste, la Solidarité, la Granière et les Bourrélies.
Très bien. Alors, le thème de la conférence de demain, c'est le pouvoir d'agir des usagers. Comment les usagers participent à la réflexion et à la co-construction des projets du château ?
Au départ, les usagers ont participé à un diagnostic communautaire avant l'ouverture du château. Ce diagnostic a été fait avec les différents groupes sociaux existants sur le quartier. Ça a permis de mettre en avant quelles étaient les attentes, les besoins, mais aussi les freins à la participation des habitants vis-à-vis d'un projet comme le château. Dans la manière dont on pense le château, la participation traverse tous les espaces. Ça commence dans la consultation, ça vient aussi prendre pied dans les différents groupes qu'on peut proposer aux habitants. Dans la manière dont on va penser nos accompagnements aussi, c'est très important que les usagers puissent s'approprier ce qui traverse le château, et même le château en tant qu'espace est un endroit où on fait attention à ce que les gens se sentent bien. La participation, c'est pas quelque chose qui est figé dans notre modèle, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Notamment aujourd'hui, ça fait partie des réflexions puisque les usagers, c'est une question qu'on se pose au sein de la, les usagers sont pas au sein de la gouvernance du château et c'est quelque chose qu'on est en train de penser, sur lequel on réfléchit et comment remettre les usagers, leur redonner une place au sein de notre gouvernance.
Alors justement, puisqu'ils ne sont plus dans la gouvernance, quels sont les outils ou les dispositifs que vous avez mis en place pour favoriser leur pouvoir d'agir ?
Comme je le disais, ces questions traversent l'ensemble des pratiques du château. Ça commence à l'accueil. Dès l'accueil, on a une attention particulière à bien recevoir les gens, les accueillir dans de bonnes conditions. Ça se poursuit dans les consultations, où on va vraiment, c'est un enjeu fort au château, de remettre les gens au centre de leur parcours de soins, de ne pas avoir un rapport descendant, de prendre soin à la manière dont on les accompagne. Ça vient également dans les groupes qu'on peut avoir, notamment par exemple, on a un groupe de marche qui s'est monté, qui est un groupe de marche qui s'est monté avec les habitantes du quartier en non-mixité et qui a été pensé comme un espace à la fois pour pouvoir échanger avec ses habitantes, pour leur permettre de faire du sport. Et du coup, c'est quelque chose qui est porté par les travailleuses du château et qui elles se baladent dans le massif de l'Étoile, qui est juste au-dessus de là où on travaille. Et ça a lieu tous les mardis matin.
Alors, les structures d'exercice coordonné participatif qu'on appelle les SECPA, elles mettent en pratique une approche communautaire de la santé centrée sur la participation des usagers. Comment est-ce que le Château en Santé s'est approprié cette initiative ?
C'est une initiative qu'on a co-construit, puisque différents centres du réseau des centres de santé communautaire dont on fait partie ont été approchés lors de la création de cette expérimentation, ce qui fait qu'on a participé à la création du cahier des charges. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment plutôt valider notre modèle tel qu'on le pense et tel qu'on le construit. Mais ça a aussi un impact concret sur la manière dont on travaille, puisque depuis SECPA, on a pu avoir une multiplication des postes. Avant SECPA, la travailleuse sociale avec Charlotte, avec qui travaillait au Château en Santé, était seule. Depuis, on a pu recruter deux autres travailleuses, Pauline et Alice. Ça permet du coup, du fait d'avoir plus de travailleurs, ça permet aussi de dégager plus de temps, notamment du temps hors consultation, pour faire d'autres activités, participer à des groupes, participer à des réseaux de partenaires. Ça permet de faire du collectif, de faire de la visite à domicile. Ça dégage du temps plus long aussi avec les patients, puisqu'on se répartit le travail. Ça permet de travailler plus en lien avec l'école, le centre social, les différentes structures du quartier.
Le Château en Santé, il est situé dans le territoire de Caliste. Pour vous, quelles sont les inégalités les plus marquantes sur le territoire de Caliste et aux alentours ?
Une des premières, et celle qui fait qu'on est là, c'est l'inégalité dans l'accès à des professionnels de santé. Et c'est notamment au départ du projet, c'est quelque chose qui a été construit avec l'ARS, et Caliste était identifié comme un désert médical au sein de Marseille. Donc ça, c'est quand même une des principales inégalités qu'on peut constater, et ce malgré la proximité de l'hôpital Nord. Il y a également de grosses inégalités sociales, notamment dû à manque de transport, des logements, problématiques de logements fortes sur le territoire. On a aussi des usagers qui sont souvent dans des métiers pénibles et précaires. Ce sont des personnes qui ont des besoins sociaux importants et aussi qui subissent un racisme institutionnel fort.
Comment le Château il agit concrètement pour répondre sur la question de l'accès aux soins, de la lutte contre le mal logement ? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ?
Oui, un bon exemple, c'est la médiation en santé qu'on pratique au sein du Château. Donc le rôle du médiateur ou de la médiatrice en santé, c'est justement de venir accompagner des personnes qui ont des parcours de soins compliqués, les accompagner dans les consultations pour mieux comprendre leur parcours de soins, faire de l'ouverture au droit si besoin pour des personnes qui vont être en rupture de droit. On a également le travail, tout le travail qui est mené par les travailleuses sociales au sein du Château vient répondre à ces besoins. La place des consultations longues aussi, ça permet de répondre à ces inégalités. Notamment, il y a tout un travail qui est fait pour que les personnes se sentent à l'aise de venir et de venir échanger dans les consultations qui sont des espaces de partage. Et aussi le rôle, les trois médiatrices en santé avec lesquelles on travaille au Château sont également interprètes dans des langues qui ont été identifiées comme des langues appartenant aux communautés du quartier. Et du coup, ça facilite grandement l'aller vers et l'acceptation de ces personnes au sein des consultations.
Alors, votre modèle, il inclut des consultations médicales, sociales et puis des ateliers collectifs. Comment ces approches, elles permettent de dépasser les limites de la médecine classique ?
Ces approches, en tout cas à notre sens, ça permet de remettre les patients au sein de leur parcours de soins. Ça leur permet de se réapproprier leur parcours de soins, de mieux comprendre ce qui peut les traverser, et de mieux comprendre ce qui se joue médicalement. Et en faisant ça, ça permet que les personnes observent mieux leur traitement et une meilleure compréhension de leur maladie, et donc vont être plus observants vis-à-vis des traitements qui sont mis en place. C'est aussi l'idée, on travaille également, non pas seulement sur le somatique, mais aussi on pense la santé comme étant quelque chose de global, et on va tenir compte également des inégalités sociales qui peuvent avoir des impacts sur la santé, notamment l'accès au logement. Si je prends un exemple, par exemple un enfant asthmatique, on va l'aider à trouver un autre logement, puisque souvent, on remarque que souvent les enfants qui sont asthmatiques sont également dans des logements qui souvent sont insalubres et du coup vont avoir un impact sur leur santé au quotidien. Par ailleurs, on peut prendre aussi l'exemple d'un enfant en surpoids. On va l'aider à trouver une activité au centre social, on va l'aider à trouver un espace pour se dépenser, faire du sport et pas seulement avoir une regardance médicale.
Comment vos actions collectives comme les groupes ou les ateliers permettent de renforcer l'autonomie et la solidarité des usagers ?
Le mieux pour parler de ça, c'est de vous donner un exemple. Il y a 2 ans, APO, qui est un de nos médiateurs en santé, a monté ce qu'on a appelé le groupe Impo. Du coup, en fait, APO, c'est notre médiateur en santé. Il est également interprète en turc et kurde. Et il y a une forte communauté turque et kurde sur le quartier. Et du coup, en fait, il a monté un groupe pour accompagner les usagers à faire leur déclaration d'impôt ensemble. Du coup, pendant toute une journée, ils se sont réunis. Ils ont rempli chacun a rempli sa déclaration d'impôt accompagné par APO. Et c'est des espaces d'entraide qui permettent de faire communauté et donnent du sens à ce qu'on fait et de faire quartier.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des programmes comme le PRODAS ou les initiatives autour de la santé des femmes ?
Oui, le PRODAS, du coup, c'est le programme de développement affectif et social. C'est un programme qui vient du Canada. C'est un programme qui vise à accompagner les enfants dans l'expression de leurs émotions. Du coup, c'est des ateliers qu'on a mis en place tous les mercredis. On a 2 groupes. C'est des groupes en fonction de l'âge, si je ne m'abuse. On a un groupe de 8 à 10 ans et 10-12 ans. C'est des groupes qui fonctionnent très bien. C'est donc au sein de ces ateliers, c'est des petites activités qui permettent de favoriser la communication entre les enfants et l'expression de leurs émotions. Ça fonctionne très bien. Du coup, on a mis ça en place depuis le début de l'année. Et on a de plus en plus d'enfants qui viennent. La fois d'après, ils viennent avec leurs copains. Ils demandent si les copains peuvent participer aux ateliers. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes de l'équipe qui se forment à ça. Et c'est quelque chose qu'on a envie de valoriser. On a autour de la santé des femmes, on a mis en place un groupe de parole autour de l'accueil d'un enfant à naître. Au sein du Château en Santé, on a des médecins qui ont des DU de gynécologie. Et du coup, c'est dans une volonté de créer des groupes autour des questions de la naissance et de l'arrivée d'un enfant. Il y a ce groupe de parole qui s'est monté et qui permet, avec les habitants du quartier, d'échanger sur qu'est-ce que c'est déjà une grossesse, comment on vit ça, de voir qu'il y a partager les expériences et également de mieux se préparer à ce que va être la naissance.
Alors on en a parlé un petit peu avant, vous et moi, Benjamin, mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des initiatives comme PEPS2 qui propose une rémunération forfaitaire pour les équipes de professionnels. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
PEPS2, c'est donc une expérimentation de la sécurité sociale. Ça fait partie des expérimentations Article 51. Ce sont des expérimentations qui visent à introduire de nouveaux modes de rémunération de la médecine. Du coup, au sein de PEPS, c'est pour toute notre patientèle qui est déclarée médecin traitant au château. On ne fait plus d'actes médicaux. Comme vous faites, vous, quand vous allez voir un médecin, on effectue un acte qui est de 26,50 € aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on va voir son médecin, chaque consultation correspond à un acte. Nous, à travers PEPS, on a un forfait annuel. Chaque personne qui est médecin traitant, en fonction de différentes caractéristiques de santé, on touche une somme, et ce, quel que soit le nombre de fois où la personne vient. Et ça, en fait, nous, ça vient vraiment valoriser la manière dont on travaille et le fait qu'on ait envie de sortir, on veuille sortir de ce rapport médical à l'acte. On cherche à faire on travaille plus sur des consultations longues. Au château, en moyenne, les consultations, c'est plutôt une demi-heure à une heure. L'enjeu, c'est de prendre le temps d'échanger, de discuter avec les patients. Il y a souvent aussi des co-consultations, que ce soit avec soit des médecins et des médiatrices en santé, soit des médecins et travail social, médecins interprétariat aussi en fonction des spécificités.
Très bien. Alors, j'ai envie qu'on parle un petit peu du territoire, du local, et j'aimerais savoir comment vous travaillez avec les associations, les écoles, les institutions comme l'ARS, par exemple, hein, ou d'autres acteurs locaux.
Nous, on travaille principalement avec les écoles, notamment via les deux orthophonistes qui souvent participent à des équipes éducatives au sein des écoles pour les enfants qu'on accompagne. On peut également participer à des réunions au sein des écoles quand on peut faire appel à nous sur des réunions. Le PRODAS également a été présenté dans l'école de Caliste, l'école primaire de Caliste. En dehors de l'école, on travaille beaucoup avec les différents centres sociaux des quartiers alentours. On a certains ateliers qui sont portés en commun. On a également un projet de départ en vacances pour les enfants qui font partie du centre social. On est en partenariat avec des colonies de vacances qui sont des camarades proches de nous, et du coup tous les ans on accompagne des enfants à partir en vacances. On travaille également avec les partenaires médicaux, que ce soit la PMI, beaucoup sur le quartier, et les différentes associations.
Alors, le château, il s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire et des partenariats. Est-ce que vous pouvez nous parler des faiblesses et des forces de ce choix ?
Une des forces pour nous d'une équipe pluriprofessionnelle, c'est que ça permet une meilleure prise en charge des patients et des parcours de soins, puisque du coup, il y a tout cet échange entre les différents professionnels du château, et notamment au cours d'une consultation médicale, on peut se rendre compte qu'on a besoin et qu'il y a un besoin soit de suivi sur le logement, soit de suivi sur le travail. Et du coup, on peut faire appel aux travailleurs sociaux qui sont là. Et inversement, au sein d'une consultation sociale, on peut se rendre compte qu'il y a un besoin médical et faire appel aux professionnels de santé. Une des faiblesses, on pourrait dire que ça serait le temps de coordination que cela demande, et ce qui nous prend du temps, puisque tous les matins, on a une demi-heure de réunion d'équipe qui sert de réunion de passage d'informations sur les consultations qui ont été prévues dans la journée ou s'il y a des spécificités qui ont besoin d'être transmises entre les différents professionnels. Mais à un autre endroit, ce temps de coordination permet aussi de gagner du temps dans les consultations, puisque du coup les professionnels savent avec qui appeler, quel collègue consulter au besoin. Donc c'est aussi quelque chose qui nous fait gagner du temps. Donc
c'est une question de situation. C'est ça. Quelles sont vos marges de manœuvre face aux contraintes institutionnelles ou financières ?
L'arrivée de SECPA et de PEPS, c'est quelque chose qui nous permet pour le coup plus de largesse financièrement. Et c'est quelque chose qui vient soutenir notre modèle et qui, avant SECPA et PEPS, c'est le modèle économique du château, c'était la rémunération, les actes médicaux qui rémunéraient les consultations médicales. Mais pour tout le travail qui avait lieu autour, là, c'était des demandes de subventions, notamment le poste de conseillère conjugale et familiale et le poste d'assistante sociale et aussi le poste de gestionnaire qui était là historiquement. Ça, c'était des postes qui étaient financés avec des subventions, donc des appels à projets, ce qui demande du travail, notamment de construction de dossiers, de demandes de subventions, mais aussi de rendu de compte en fin de projet. SECPA et PEP, ça nous permet de sortir de ça. Aujourd'hui, SECPA, c'est une subvention qui vient financer des postes et non pas des actions, ce qui nous permet ensuite de travailler avec les différents professeurs. Pour les différents professionnels de manière plus libre. Par contre, on reste quand même face à des contraintes institutionnelles, puisqu'aujourd'hui, ce sont des expérimentations, ce sont donc pas des choses qui sont inscrites dans le droit commun, et du coup, on est toujours assujetti à la fin de cette expérimentation. On ne sait pas, SECPA se termine en 2025, et on ne sait toujours pas ce qui va en être. Est-ce que ça va être inscrit dans le droit commun ? Est-ce que ça va se poursuivre en expérimentation ou est-ce que ça va s'arrêter tout simplement ? Et pour nous, c'est un fort enjeu.
un livre, un film, un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Oui, ben, pour rester dans la thématique de la santé, récemment j'ai lu La bataille de la sécu de Nicolas Da Silva qui retrace l'histoire de la création de la sécurité sociale et des luttes qui y sont liées. Et c'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment très intéressant, notamment pour se réapproprier cette histoire que je pense on a tendance à oublier aujourd'hui et aussi qu'on met souvent en avant, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et ça permet de remettre en perspective toutes les questions et à quel point la sécurité sociale, c'est aussi un modèle qui est central aujourd'hui dans le modèle dans le modèle social français et qui est quelque chose personnellement que j'ai envie de défendre, j'ai envie de valoriser. Et je pense qu'on devrait... On devrait tous être plus au courant de son histoire.
Merci beaucoup. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci Benjamin Tagawa.